France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 5 février. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une confirmation, la France échappe encore une fois au reconfinement, mais il faut faire plus en matière de télétravail, de respect du couvre-feu et de détection des variants du coronavirus. Retour sur les annonces du gouvernement hier soir, dès le début du journal, après les autres titres, Agnès.
Montagne ou bord de mer, le début des vacances d'hiver pour la zone A ce soir. La contestation monte dans les universités d'Istanbul après les propos homophobes du président turc. Des livreurs à vélo embauchés en CDI. Et puis une pépite britannique à découvrir en fin de journal.
Les invités et rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45. Le débat éco, Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, une question, faut-il une annulation des dettes publiques qui ont explosé à cause de l'épidémie de Covid? À 8h20, le Covid encore dans le grand entretien avec l'infectiologue et épidémiologiste Karine Lacombe. Elle est chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous pourrez dialoguer avec elle, bien sûr. 01 45 24 7000.
France Inter.
La ligne que s'est fixée le gouvernement pour éviter un reconfinement tient encore? Certes, la situation est préoccupante, a dit hier soir le Premier ministre, les variants circulent, mais les chiffres restent relativement stables. Un peu plus de 23 000 nouvelles contaminations en 24 heures et un nombre de patients hospitalisés en très légère baisse. Pas de nouvelles restrictions donc, la France reste pour l'instant sous couvre-feu. Jean Castex.
Un nouveau confinement ne peut s'envisager qu'en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour. Vous disant cela, je veux être clair. Si nous y sommes contraints en cas de dégradation forte et rapide de la situation, nous n'hésiterions pas à prendre nos responsabilités. L'objectif que nous devons nous fixer, ce n'est pas de retarder cette échéance, c'est de tout mettre en œuvre pour l'éviter.
Tout mettre en œuvre pour l'éviter, cela passe notamment par le télétravail. Télétravailler est impératif, a insisté le Premier ministre. 2,5 millions de salariés qui pourraient télétravailler ne le font pas, a dénoncé la ministre du Travail, pointant du doigt les secteurs de l'assurance, de la banque, de l'immobilier, de la communication. Nous y viendrons en détail dans le journal de 8 heures. Le Premier ministre qui a également insisté sur la responsabilité de chacun dans le respect des gestes barrières et du couvre-feu à 18 heures. Sur le plan strictement sanitaire, 4 premiers cas d'infection aux variants brésiliens ont été détectés dans le Var, la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'île de la Réunion. La nouveauté annoncée hier par Olivier Véran concerne justement la détection de ces variants. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Hélène, Olivier Véran promet donc de nouveaux tests PCR.
Oui, des tests PCR dits multiplex. Ils utilisent de nouveaux réactifs capables de repérer s'il s'agit de la Covid classique ou un de ces trois variants. Normalement, à partir de lundi, toutes les personnes positives pourront savoir par quelle souche elles ont été contaminées. Dans la journée, si le laboratoire est déjà doté de ces nouveaux tests, en 48 heures, s'il doit l'envoyer à une plateforme, les labos doivent s'équiper petit à petit. Le but, c'est ensuite d'activer le contact tracing de façon prioritaire sur les personnes testées positives aux variants afin de couper la chaîne de contamination et s'assurer de leur isolement.
Et du nouveau aussi, Hélène, du côté des tests salivaires.
Oui, le ministre de la Santé a annoncé hier la multiplication des dépistages dans les établissements scolaires et les universités après les vacances de février. Mais pas question de faire subir des tests désagréables aux plus jeunes. L'écouvillon dans le nez serait donc remplacé par une pipette dans la bouche. Il ne s'agit pas ici de tests rapides. Leur sensibilité est trop faible, a précisé hier Olivier Véran. Le prélèvement salivaire sera analysé par un laboratoire de la même manière qu'un test PCR. Il sera aussi capable de repérer les variants. Un avis de la Haute Autorité de Santé est attendu sous 10 jours, mais le gouvernement a déjà demandé aux biologistes de s'équiper afin d'être en capacité de réaliser, au retour des vacances, jusqu'à 300 000 prélèvements par semaine.
Merci Hélène Chevalier. Les vacances, justement, elles débutent ce soir pour un tiers des élèves. Sont concernées les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. Difficile, voire impossible de partir à l'étranger, mais on peut circuler d'une région à une autre. Si les professionnels de la montagne font grise mine, les remontées mécaniques sont toujours fermées, les zones littorales espèrent tirer leur épingle du jeu. Reportage à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique de Béatrice Duguet.
Le parfum des mimosas embaume, le vent ramène le soleil entre deux averses.
Voilà, c'est un 40 mètres carrés, c'est un T2.
Et Nathalie Delaporte se dit qu'il ferait bon passer des vacances dans l'un de ces quatre cottages tout neufs, comme pour les fêtes de fin d'année.
Il y a eu beaucoup de réservations sur la fin de l'année. J'en aurais eu 10 de plus, j'en aurais loué 10 de plus, c'était assez drôle. Par contre, tout s'est arrêté le 2 janvier, voilà. J'aurais pensé qu'ayant pas de remontée mécanique sur les pistes de sport d'hiver, les gens aillent à la mer. Mais apparemment non, pas pour l'instant en tous les cas.
Alexandra Gauthier espère aussi cette clientèle dans sa maison d'hôte Brève Océan. 4 chambres à louer avec en plus un espace commun.
Avec un séjour où il y a une petite kitchenette. C'est le petit service plus qui est très apprécié dans ces périodes de confinement. Et bien sûr, de leur proposer de la restauration, m'occuper pour eux d'aller chercher quelque chose pour qu'ils puissent se restaurer en fonction de leurs besoins.
Quelques nuitées réservées déjà ce mois-ci pour Alexandra Gauthier, qui ne prend pas de vacances cet hiver précisément pour accueillir les touristes. La réactivité, c'est le maître mot pour tous ces professionnels, reconnaît Maude Blanchetière de l'Office du tourisme de Saint-Brévin.
Très certainement pour nos hébergeurs, en tout cas, ça va être de la demande de dernière minute, certainement de la durée répondant vraiment aux aspirations de leur clientèle, et l'adaptation elle se situe aussi à ce niveau-là.
Quant aux activités à proposer, ça n'est pas ce qui manque, char à voile, balade à cheval, le vélo, la marche à pied, en un mot, le grand air.
Reportage en Loire-Atlantique de Béatrice Duguay.
Il est 7h06, Agnès. Question, y aura-t-il un rapprochement LREM-LR au régional en PACA?
À 5 mois du scrutin, le parti présidentiel a désigné toutes ses têtes de liste, sauf en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce n'est pas un hasard, Karine Bécard.
C'est un ancien ministre chiracain qui se retrouve aujourd'hui complètement piégé. Renaud Muselier dirige la région PACA depuis seulement 3 ans et demi, et pour tenter de la garder, elle est en réalité assez coincée. Parce que d'un côté, il y a ceux qui le poussent à pactiser dès le premier tour avec le parti d'Emmanuel Macron. C'est le cas d'abord de Christian Estrosi, le maire de Nice, l'ancien président de la région à qui il doit donc beaucoup. Et puis c'est le cas aussi d'Hubert Falco, le maire de Toulon, qui soutient ostensiblement l'actuel président. Or, il serait compliqué pour Renaud Muselier de se lancer dans cette campagne, notamment face au Rassemblement national, sans pouvoir s'afficher dans la région avec ces deux hommes incontournables. Et puis de l'autre côté, il y a sa famille politique qu'il n'a jamais quittée. Comment gagner pour Renaud Muselier sans le soutien de son parti, les Républicains? Les Républicains qui ont déjà clairement annoncé qu'il n'y aurait aucune alliance possible avec les candidats du parti présidentiel. Bref, 30 ans d'une carrière politique qu'il avait commencé au RPR pour être finalement bloqué et n'avoir plus que quelques semaines désormais pour trancher.
Direction la Turquie à présent, où la tension monte dans l'une des plus prestigieuses universités du pays, l'université du Bosphore à Istanbul, où la nomination d'un proche du président Erdogan comme recteur a provoqué la colère d'une grande partie des enseignants et des élèves, colère attisée par les propos du chef de l'État. Reportage à Istanbul d'Anand Leuer.
Des terroristes, des vandales, des détraqués LGBT. Recep Tayyip Erdogan et ses ministres se répandent en invectives contre les étudiants de l'université du Bosphore qui refusent leur nouveau recteur. Le président turc espère ainsi marginaliser leurs contestations, empêcher qu'elles ne s'étendent à d'autres universités et au reste de la société. Simay, 21 ans, étudiante dans une université privée d'Istanbul, assure au contraire que ses propos n'ont fait que renforcer son soutien envers le mouvement.
Cette façon de faire de la politique me révulse. Comparer nos camarades à des terroristes, s'en prendre à travers eux aux étudiants LGBT, c'est stupide, c'est un manque de respect total. Il serait temps qu'on apprenne dans ce pays à respecter les minorités sexuelles autant qu'on respecte les personnes pieuses.
Les autorités refusent toute forme de dialogue avec les manifestants. Belis, qui étudie l'architecture, y voit un symbole de la façon dont le pouvoir est exercé en Turquie.
Le but est de criminaliser les manifestants, mais c'est précisément parce que nous vivons désormais dans un pays où le président décide de tout que les gens sont si mécontents.
La crise risque de durer. Recep Tayyip Erdogan jure de ne pas reculer. Le recteur contesté a exclu de démissionner. Quant aux étudiants, ils promettent de ne pas renoncer à leur unique revendication, l'élection d'un nouveau recteur. Anand Leuer, Istanbul, RFI pour France Inter.
Décidément, aux États-Unis, le changement est radical. Joe Biden a annoncé hier vouloir accueillir 125 000 réfugiés cette année. C'est 8 fois plus que sous son prédécesseur. Changement de ton également face aux ingérences de la Russie. Les États-Unis ne s'écraseront plus, a dit Joe Biden. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Retour en France avec l'épineuse question du statut des livreurs à vélo. Ils sont de plus en plus visibles dans les rues des grandes villes. Le groupe anglo-néerlandais spécialisé dans la livraison de repas promet d'en finir avec les contrats précaires. Just Eat compte recruter 4500 coursiers en CDI. Une annonce qui laisse sceptiques les collectifs de livreurs. Yann Gallic.
Depuis novembre dernier, Just Eat a déjà embauché 350 coursiers en CDI. Des étudiants et des micro-entrepreneurs pour la plupart. Payés 10,30 euros de l'heure, ils bénéficient d'une couverture sociale. Leur contrat prévoit aussi des horaires flexibles qui leur permettent d'exercer une autre activité en parallèle. De meilleures conditions de travail, a priori. Jérôme Pimaud est le président du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris.
Le fait est qu'en CDI, on est mieux protégé. Just Eat communique beaucoup sur les temps pleins. On a vu des jeunes livreurs à 1500, 1600 euros par mois net, sauf qu'on sait très bien que ça va certainement être une très petite partie. Et si c'est pour se retrouver avec une majorité de gens à 10, 15 heures par semaine, la réalité risque d'être beaucoup moins jolie que les effets d'annonce.
Face aux grandes plateformes de livraison, de plus en plus de coursiers se rassemblent au sein de coopératives où ils sont également salariés en CDI.
Les 35 heures, on peut difficilement les mettre en place dans ce métier-là parce qu'on est sur un travail de restauration. La livraison de repas, un autre modèle est possible. On le voit par rapport à tout un tas de coopératives qui se créent. C'est des coopératives en plus locales. On n'est pas lié à un géant international. Ça a beaucoup plus de valorisation.
Jérôme Pimaud en est convaincu. Le modèle coopératif est la meilleure alternative possible, dit-il, dans ce secteur qui a majoritairement recours à des travailleurs indépendants et précaires.
Le Premier ministre attendu cet après-midi à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, où la décrue de la Garonne a commencé, mais les dégâts sont importants. 12 départements restent en alerte orange ce matin pour des risques de crue. Et à la fin, c'est Canal+ qui rafle la mise. La Ligue de football professionnel a accepté l'offre du groupe pour diffuser tous les matchs qui restent à jouer en Ligue 1 et 8 matchs sur 10 en Ligue 2. Le détail dans le journal de 7h30. Et puis les organisateurs de l'Open de tennis d'Australie sont pour leur rassurer. Tous les tests effectués sur les joueurs hier sont négatifs. Le tournoi devrait débuter comme prévu lundi. Enfin, c'est le phénomène du moment outre-Manche. Arlo Parks a 20 ans et tout semble lui réussir. Égérie Maude, poétesse, écrivaine, la voilà chanteuse. Son premier album très attendu vient de sortir et il a visiblement séduit Mathieu Culeron.
En Angleterre, tout le monde mise gros sur Arlo Parks, et pas uniquement parce que les écoutes de ses titres sur les plateformes dépassent les 50 millions d'écoutes. À 20 ans, cette jeune chanteuse impressionne par la qualité de ses textes. Elle qui s'est plongée adolescente dans Dylan et Sade et qui travaille déjà sur un roman et un recueil de poésie. Son univers musical est plongé dans un bain de soul typiquement anglais. Preuve de l'excitation générale autour de cet artiste, Arlo Parks, c'est Paul Epworth, producteur anglais d'Adele, de Lana Del Rey ou encore de Bloc Party, qui s'est occupé de ce premier album. You shouldn't be afraid to cry in front of me. Positif et efficace, le premier album d'Arlo Parks était déjà avant sa sortie un événement. Une chanteuse qui sera l'une des grandes voix populaires des années à venir.
Une découverte de Mathieu Culeron.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes sur les réseaux sociaux, nouveau moteur des violences entre bandes rivales.